caméras pour reculer, pour avancer. Des systèmes qui t'aident à te parquer. Ça bip, c'est magnifique. Après, ça ne prend pas en compte le facteur humain, hein, parce que comment j'ai fait pour plier la voiture sur trois côtés différents en un seul mouvement, ça je me l'explique pas. À part par le fait d'être un loser, un gros loser. Alors ne vous en faites pas, je vais bien, à part la voiture, rien de cassé. En plus, ça tombe bien, j'avais réussi à mettre du pognon de côté cette année, en cas de pépin. J'ai bien fait, je vais pouvoir l'utiliser. Et finalement, je me dis que dans la vie, ce qui est important, c'est de continuer à aller de l'avant et de faire gaffe avec les marches arrière. Voilà. Loser.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Audrey Cavelius expose en ce moment du côté de la galerie Contre-Contre à Saint-Maurice avec Katia Zagoritis. Audrey Cavelius, bonjour.
Bonjour.
Déjà, nous expliquez votre démarche artistique. Qu'est-ce que vous présentez en ce moment à Contre-Contre?
Alors, personnellement, j'expose deux projets. Un projet qui s'appelle Série, qui est un travail qui vient du théâtre, en fait, parce que moi, je suis comédienne et metteur en scène à la base. Et puis après, j'ai un peu décidé d'aller voir ailleurs si j'y étais aussi. Et donc là, c'est un travail photographique et vidéo qui est présenté avec toute une série de performances. Pardon, pas de performance, de métamorphose corporelle, en fait. J'ai travaillé avec deux autres collègues, danseuses, et puis je leur ai proposé un cadre de travail qui était la transformation identitaire à partir de thématiques, à partir de matériaux, à partir de couleurs, à partir de formes, à partir d'émotions. C'était un peu... On piochait un peu partout, comme des intuitions, même, presque, et comme des moteurs de propositions de recherche. Et puis, voilà, je présente toute une série de photos. Et puis, il y a un deuxième projet qui s'appelle Visage, qui fonctionne à peu près sur le même principe. C'est aussi un travail photo et vidéo. Et là, en fait, dans le cadre de séries, il y avait différentes photos, différentes propositions qui étaient faites. Il y en avait une qui m'avait, on va dire, passablement resté dans la tête, en fait, qui était tout simplement, en fait, un visage qui avait été peint sur le corps. Mais le propre visage disparaissait complètement, quoi. Le vrai visage de la personne, qui était en l'occurrence moi, j'étais le modèle de cette photo, disparaissait complètement. Et donc, du coup, ça s'est resté, puis j'avais envie d'en faire un vrai sujet. Le portrait lui-même, qui est quelque chose qui, à travers l'histoire de l'art, est complètement, se fait partout, se fait depuis tout temps et sans doute va continuer à se faire. Du coup, il y a tout un travail assez, à la fois très littéral de visage sur le corps et à la fois très symbolique, qui est avec un corps nu dans un élément naturel, dans la forêt, dans les choses comme elles sont, de faire apparaître des visages, de les faire apparaître et disparaître. Et en fait, c'est tout un travail sur... Tout ce que je fais, moi, j'ai l'impression, j'essaye, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'identité. Et donc là, c'est comment présenter l'identité dans ce qu'elle est profondément, c'est-à-dire un processus dynamique qui ne s'arrête jamais, en fait, qui est tout le temps entre la construction et la déconstruction, qui est toujours en mouvement. Et s'il n'y a plus de mouvement, en fait, il n'y a plus d'identité, en fait, c'est la mort, quoi.
Merci, Audrey Cavelius, vous venez de nous résumer magnifiquement cette exposition. Je vais vous interviewer parce que demain, le 2 mai à 19h à Contre-Contre, il y a une table ronde justement avec le double mot modèle, le modèle ou la modèle et modèle des apostrophes. Et justement, vous serez avec votre collègue Katia Zagoritis, une des deux intervenantes de cette table ronde. On retrouve aussi Walter Chup, historien de l'art, Sophie Goudin et Emmanuel Courdenès, qui sont justement des modèles, tout ça modéré par Thibaut Métro. Vous venez de nous expliquer, et puis on va comprendre justement demain de quoi s'inspirent vos expositions et cette table ronde. Il faut venir demain à Contre-Contre, contrecontre.com. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais. Programme de nuit.
Quand je dis que le MAG, c'est une région magnifique et racontée par la rédaction de Radio Chablais, je n'exagère pas, même pas un peu. La preuve, avec cette initiative pionnière dans le monde viticole suisse, dont nous partons à la découverte, avec l'association Ivorne Grandeur Nature, qui s'est donnée pour mission de transformer le domaine d'Ivorne en un exemple de développement durable. Pour nous en parler, nous avons Philippe Jex, président de l'association et vigneron de profession, et Thierry Heger, professeur à la Haute École de Changin, qui ont tout de rappeler l'importance de la transition écologique dans le monde viticole. Ils l'ont fait au micro de Julie Gay.
Face aux préoccupations écologiques au sein de la population et à une conjoncture économique difficile, le secteur vitivinicole se trouve contraint d'agir de manière proactive pour anticiper les événements à venir. C'est dans ce contexte qu'est née l'association Ivorne Grandeur Nature à la fin de l'année 2019. Sans visée lucrative et apolitique, cette association s'est fixée pour objectif de faire d'Ivorne la première appellation suisse entièrement dédié au développement durable. Son président, Philippe Jex, également vigneron, nous fait le dessin du domaine de cette commune chablaisienne.
Ce domaine viticole, on le voit, si vous arrivez par l'autoroute et que vous venez en direction d'Ivorne, c'est un vignoble qui est extraordinairement homogène. On ne peut pas dire qu'il y a de mauvaises vignes et des vignes extraordinaires. Il est d'une altitude moyenne, il est d'un seul bloc, à peu près exposé à la même direction d'onde du midi, ça veut dire sud-est. Si vous comparez avec d'autres vignobles qui sont proches de chez nous, il est beaucoup plus homogène par son exposition, par sa pente, et puis surtout par ce terroir incroyable qui est en partie une terre d'éboulis. Donc c'est un peu, si j'ose dire, le château neuf du Chablais, puisqu'on a des terres qui sont extrêmement graveleuses, calcaires et absolument idoines pour la culture du Chasselas en particulier.
158 hectares appartenant à 85 propriétaires. Mener un projet de cette envergure, c'est audacieux, selon Philippe Jex. Alors pour qu'il puisse se réaliser, il fallait être crédible, dit-il, et de facto travailler avec des organisations qualifiées. C'est dans cet esprit, et avec le soutien financier de la Fondation MAVA, engagée dans la conservation de la biodiversité, qu'est née la collaboration entre l'association Ivorne Grandeur Nature et la Haute École de Changin. Un partenariat qui a abouti, entre autres, à la création d'un catalogue évolutif de recommandations pour encourager l'adoption de méthodes durables. Thierry Heger, professeur à la HES de Changin.
Ce catalogue contient de nombreux aspects liés à l'enherbement, liés à la gestion des sols, liés à la gestion de l'eau, à la protection de la vigne, à la biodiversité et aussi aux cépages résistants. Donc ça, c'est un cahier des charges assez global et les vignerons doivent suivre les mesures de base et les mesures intermédiaires. Et en plus de cela, ils peuvent choisir des mesures avancées. L'idée, c'est d'avoir un cahier des charges évolutif et chaque année, en fait, on modifie le cahier des charges. Comme ça, ça permet, en fait, d'avoir des mesures de plus en plus durables, mais respecter, justement, les contraintes qui sont liées à ces éventuelles mesures.
Autre projet mené dans le cadre d'Ivorne Grandeur Nature, un projet de thèse qui vient de débuter et qui sera mené par Serena Fantasia. L'objectif de cette thèse est de mieux comprendre quels sont les effets de la sécheresse sur le vignoble. On retrouve Thierry Heger.
C'est une expérience très ambitieuse où on a installé des serres et sous ces serres, en fait, on va simuler différents épisodes de sécheresse qui permettront de mieux comprendre en fait quels sont les impacts de la sécheresse non seulement sur le vignoble mais également sur l'enherbement et le sol. Donc ça, c'est une approche extrêmement originale et on va faire de nombreuses mesures au niveau de la température, de l'humidité. Il y aura aussi des analyses qui vont être faits sur la qualité des baies, des micro-vinifications, pour vraiment bien comprendre quel sera l'impact de ces sécheresses sur le vignoble.
Un projet de thèse, un catalogue de mesures, voilà des exemples d'actions concrètes d'Ivorne Grandeur Nature qu'elle aime partager. C'est ainsi que le 2 mai prochain aura lieu la deuxième journée de la biodiversité à Ivorne. Après une première édition réussie, l'association invite à nouveau la population à découvrir les aménagements réalisés et les mesures culturelles mises en œuvre pour une viticulture durable. On retrouve le président de l'association, Philippe Jex.
Ce projet Yvonne Grandeur Nature concerne tout le monde et il faut vraiment encourager, que ce soit les producteurs, les vignerons ou les gens d'Yvonne, les encourager à s'y intéresser parce que c'est un projet audacieux et de grand intérêt. Et puis on peut juste, en complément de ce que vient de dire Thierry sur ce travail de thèse de Serena Fantasia Yvonne, c'est un projet sur 3 ans qui est extrêmement important, très important, avec beaucoup de participants, étudiants, etc., et scientifiques. Il faut bien sûr financer tout ça. Et on a la chance dès le départ d'avoir un partenaire qui a compris l'intérêt de ce genre de projet et qui a pu financer cette démarche, en particulier cette thèse à Yvonne. Et je dois avouer qu'on a, j'ose dire, une longueur d'avance, en tout cas une chance extraordinaire d'avoir avec nous des mécènes de ce genre-là.
Et on vous rappelle que la journée de la biodiversité se tiendra ce samedi 4 mai de 10h à 16h au départ de la salle de la grappe à Yvonne.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On continue ce mag avec un mot très difficile à placer dans une conférence. Agrivoltaïsme. Il était pourtant au centre des discussions le week-end dernier à Sion, dans le cadre d'une rencontre intitulée « Le carrefour de la transition ». Un événement qui a permis de mettre en lumière ce potentiel peu exploité en Suisse. Mise en perspective par l'association AEE Valais Vallis, qui a pour mission de promouvoir les technologies d'énergie renouvelable, l'agrivoltaïsme demeure encore méconnu du grand public. Pour y voir plus clair, nous avons rencontrer le président de l'association, le chablaisien Pascal Dubosson. Ne vous en faites pas, il commence par nous expliquer ce que c'est.
L'agrivoltaïsme, on comprend qu'il y a agriculture dans le terme, donc en effet, c'est cherche à combiner agriculture et photovoltaïsme. Donc pas simplement à mettre des panneaux solaires dans un champ et puis laisser les vaches brouter dessous, mais vraiment combiner des cultures, en l'occurrence principalement des cultures de petits fruits, ça peut aller des fraises, framboises, myrtilles, éventuellement de la vigne, avec du photovoltaïsme qui permet d'amener une protection contre les aléas climatiques et puis également donc produire plus d'énergie pour des cultures au niveau maraîcher qui actuellement, quand il y a des serres, sont chauffées avec des énergies fossiles.
Alors sur le papier, ça sonne très bien, mais je suppose que dans le concret, il doit y avoir des éléments complexes. Est-ce que l'agriculture, les énergies renouvelables, ça fonctionne très bien ensemble dans cette dynamique-là, dans ce projet-là ?
Alors c'est très complexe, il y a peu de recul, et c'est vrai que ça fait plusieurs années que l'Agroscope fait des recherches sur ce sujet, donc il y a des installations test qui sont en service. Et sur certains types de fruits, ils voient des rendements qui sont comparables à d'autres solutions sous des tunnels. Par contre, c'est vrai que sur d'autres cultures, c'est pas adapté. Donc, il faut faire des recherches pour chaque type de fruit et puis éventuellement même sur chaque lieu, parce qu'on peut retrouver différents rendements au niveau de la culture des fruits en fonction du lieu et des climats. Mais par contre, ça peut nous protéger contre des aléas climatiques, la chaleur en été. Donc, on peut diminuer la température d'environ 6 degrés sous des panneaux solaires, ce qu'on n'a pas forcément de la possibilité au niveau des tunnels. Et puis, on peut éventuellement aussi protéger contre le gel et ou des fruits qui mûrissent trop vite.
Et comment se comporte le monde agricole face à cette nouvelle dénomination d'agrivoltaïsme ? Est-ce que là aussi, il y a non seulement une ouverture d'esprit, bien évidemment, mais je suppose aussi des questionnements sur le fonctionnement ?
Alors, je pense que les agriculteurs ne seront pas les premiers demandeurs pour ce genre de solution, mais ils ont des exigences, par exemple, au niveau de l'association des fruits suisses. Ils doivent arriver à 80% d'énergie renouvelable d'ici 2030 et 100% d'énergie renouvelable d'ici 2040 pour leur production. Donc, au niveau des serres, typiquement, il faut arrêter avec ces chauffages au mazout. Et donc, ils vont devoir passer à d'autres solutions. Mmh. Alors, ils vont pas forcément réussir à tout produire, ou peut-être qu'il y aura trop de production de photovoltaïque à une certaine période, mais ils pourront, compléter leur revenu agricole avec du solaire et puis l'utiliser sur place dans la mesure du possible.
Donc, il y a bien évidemment le rôle du politique dans cette prise de conscience collective qui doit émerger comme ça.
Oui, et puis c'est vrai que dans notre association, au niveau du comité, on a 2 parlementaires qui sont au Grand Conseil, et c'est vrai qu'ils ont déjà posé plusieurs fois la question sur ce thème pour que le canton fasse également avancer les choses. Et c'est vrai que le canton a un rôle également à jouer pour promouvoir ce type d'installation. On voit que maintenant, on veut mettre des panneaux solaires dans les montagnes, Je ne vais pas rentrer dans le débat.
Non, on en a passablement parlé, effectivement.
On veut mettre des panneaux solaires sur l'autoroute ou sur des pistes cyclables, donc déjà sur des éléments qui sont bâtis. On a entendu dernièrement une entreprise veut mettre des panneaux solaires dans un champ actuellement utilisé par des agriculteurs. Je ne me prononcerai pas dans le détail sur ces différentes options. Il faut, c'est clair, mettre de plus en plus d'énergie renouvelable à disposition pour réussir la transition énergétique. Maintenant, l'agriculture, d'installer des panneaux solaires avec ce type d'installation permet de participer. On estime à une hauteur de 6 TWh le potentiel d'agrivoltaïsme. Donc 6 TWh, c'est ce qui est produit actuellement en Suisse avec des installations photovoltaïques. Et on peut aussi dire que maintenant, ça devient de plus en plus compliqué à trouver des grosses surfaces au niveau des toitures. Le potentiel commence à être épuisé. Il y a des propriétaires qui ne vont peut-être jamais mettre des panneaux solaires. Il y en a qui l'ont déjà fait. Ceux qui l'ont déjà fait, ça produit chaque année, mais on ne va pas augmenter la production avec ce type d'installation.
Donc, on va donc bien retenir ce terme, agrivoltaïsme. Je suis sûr que c'est un terme qu'on va entendre encore plusieurs fois ces prochains temps. Et on rappelle que vous êtes donc le président de l'association AEE Vallée Wallis.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Pascal Dubosson, président de AEE Vallée Wallis, était au micro de Xavier Borgeau. Un entretien que vous pouvez réécouter en replay sur notre site et notre application mobile, comme tous les autres d'ailleurs.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
On termine ce mag avec de la solidarité, parce qu'on est comme ça dans la région, solidaire. Et on le fait à travers l'hôpital Riviera-Chablais qui lance une campagne de dons de sang. Comme l'an dernier, l'établissement Valdo-Valaisan collabore avec Transfusion Interrégionale CRS et organise 4 journées de dons de sang dans l'année. La première d'entre elles se tiendra vendredi à Réna, l'occasion pour Ludovic Turin d'aller rendre visite au directeur des soins, José Iglesias, et de rappeler l'importance de faire don de quelques gouttes de son sang.
On n'a pas de substitut qui le remplace et dans beaucoup de situations cliniques et de problèmes de prise en charge dépendent aussi du sang ou de succès d'année du sang qu'on doit administrer aux patients pour les préserver du risque qui peut être même fatal en cas d'hémorragie sévérissime. Ça peut aller jusqu'au décès du patient.
Pas de substitut, on comprend donc l'importance aussi de lancer ces campagnes de dons de sang. On l'a dit, 4 campagnes prévues sur l'année en collaboration avec le CTS, le Centre de Transfusion Sanguine. Expliquez-nous un petit peu peut-être la relation, la collaboration que vous avez avec ce centre.
On a été sollicité par le Centre de Transfusion pour voir s'il était possible d'organiser une collecte au sein de l'hôpital. On sait que l'hôpital a beaucoup de passages de personnes. Ça peut être un attrait aussi, et de savoir qu'on le fait à l'hôpital, on fait ses dons dans un environnement sécuritaire aussi pour ceux qui sont donneurs. Donc on a fait cette première collaboration l'année passée qui était un succès. Et fort de ce succès, le centre de transfusion sanguine nous a demandé s'il était possible de réitérer l'opération. Et puis cette fois, on part avec un programme de 4 jours sur l'année 2024.
Alors on a dit 4 rendez-vous qui sont pris sur cette année 2024. Le premier vendredi. Si par exemple je dois venir vendredi pour donner mon sang, comment ça se passe? Comment je suis pris en charge? C'est quoi finalement la marche à suivre quand on est donneur?
Alors, soit vous êtes donneur régulier et vous êtes déjà inscrit dans les registres du centre de transfusion, auquel cas les choses se font de manière assez simplifiée. Vous vous présentez, vous êtes connu, vous êtes dans la base de données, il faut simplement vous identifier. Et puis, votre situation d'état de santé est connue aussi par le centre de prélèvement, ce qui fait que le processus peut aller rapidement. Soit vous n'avez jamais été donneur, auquel cas il faut vous inscrire, il faut venir avec des documents d'identité parce qu'on souhaite savoir à qui on a affaire. Et puis, vous serez soumis à un petit questionnaire aussi pour permettre de connaître votre état de santé. On va vous faire des contrôles qui vont nous permettre de définir si oui ou non vous remplissez toutes les conditions pour être donneur. L'avantage de ce contrôle, c'est que vous avez aussi un petit bilan de santé, vous connaissez votre groupe sanguin, vous allez connaître certains paramètres de votre état de santé. Si tout est en ordre, vous passez au don. Donc le don se fait assez rapidement, c'est pratiquement une heure de temps pour faire le circuit plein, mais le don en tant que tel, en un quart d'heure, il est réalisé. Si vous avez l'intention de donner du sang, préparez-vous au préalable, mangez un peu, buvez assez. De toute façon, au terme du don, on propose une collation aux personnes qui ont donné le sang pour se retaper un peu.
José Iglesias, on le rappelle souvent, hein, à quel point l'importance de donner son sang est capitale. On le disait aussi tout à l'heure hors micro, une personne qui donne son sang peut potentiellement en sauver 3, voire 4. C'est évidemment une moyenne. Mais vous me le rappeliez aussi, et j'ai trouvé intéressant de le dire, le don de sang, c'est finalement presque comme un don d'organes, finalement.
Oui, parce qu'on peut considérer le sang comme un organe à part entière. Hein. C'est un organe qui a la caractéristique de pouvoir se régénérer et se régénère en continu. On donne son organe, mais on le donne de manière récurrente pour les donneurs qui le font avec assiduité. Donc c'est un don d'organe. Il faut l'assimiler à un don d'organe. C'est un don de vie, finalement.
Vous parlez de récurrence. Intéressant aussi de savoir combien de fois on peut le donner son sang, à partir de combien de temps on peut retourner du moment qu'on l'a déjà donné.
Jusqu'à 3-4 fois par année. Ils peuvent donner son sang. Voilà. Après, ça dépend aussi de l'état de santé, d'où on se situe, par rapport à l'âge, etc. Mais 2 dons par année, c'est totalement faisable et sans risque, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sang se régénère.
Alors, on le sait, c'est important de donner son sang, José Iglesias. On entend souvent aussi que certains hôpitaux sont parfois à court de sang, parce qu'il y a une sorte de crainte, finalement, qu'on manque de sang. Est-ce que ça, c'est une réalité ?
Alors c'est une réalité, et au même titre qu'on n'est pas tous donneurs, on peut potentiellement être tous receveurs un jour. C'est ça que la population en général doit accueillir comme réalité, c'est que je peux être receveur parce que il y a un tas de situations pathologiques ou de problèmes qu'on traite à l'intérieur de l'hôpital qui nécessitent du sang, un élément aussi commun qu'une grossesse et un accouchement, peut nécessiter l'administration de sang selon ce qui se passe pendant l'accouchement. Donc voilà, toutes les situations de la vie peuvent nous amener à devoir être receveurs. J'encourage, au même titre qu'on peut l'être receveur, d'être aussi donneur.
José Iglesias était au micro de Ludovic Turin, et toutes les informations sur ces différentes journées de dons de sang sont à retrouver sur le site internet de l'hôpital Riviera-Chablais.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Lonely.
Pas des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
On est en direct de Aigle pour l'avant-dernière étape du Tour du Chablais. Il y a un de ces peuples, mon pauvre ami de Morges, record d'affluence aujourd'hui. Plus de 1850 participantes et participants de tout âge. Mais on profite en fait de ce Tour du Chablais pour pouvoir découvrir un petit peu les villes et villages de notre magnifique région. Aigle, c'est quoi ? C'est la question que je vais poser à Fabrice Cottier. Salut !
Mais salut !
Fabrice, toi en fait, tu fais quoi ici au Tour du Chablais ?
Ou plein de choses.
C'est-à-dire ? Raconte un petit peu.
Je suis le président d'organisation de cette étape d'Aigle, organisée avec les trois clubs qui sont le Eagles Union Hockey, le Basket, la Gym d'Aigle et l'Aigle Alliance. Donc président d'organisation, je suis aussi donc municipal des sports de la ville d'Aigle. Donc du coup, ben il fallait être là.
De toute façon, t'aurais dû venir.
C'est la soirée où il fallait être là, effectivement. Et puis bénévole en même temps. Donc voilà. Donc on a plusieurs casquettes, mais c'est un vrai plaisir quand on voit le monde qu'il y a ici dans cette cour du collège. C'est juste extraordinaire.
Bon, rentrons dans le vif du sujet. Parlons d'Aigle. Pour toi, Aigle, c'est quoi ?
J'ai le droit d'être chauvin ?
Oh vas-y, c'est le moment idéal.
Bah Aigle, forcément, c'est la plus belle ville du monde.
Forcément.
On est bien d'accord.
Non, oui.
Mais c'est déjà ma ville de naissance, donc ville de cœur. Toujours vécu à Aigle, intégré à Aigle. Mais Aigle, pourquoi c'est beau ? On a tout ici à Aigle. On a les vignes, on a un magnifique château, on a le cyclisme. Et on n'a pas que le cyclisme, on a le sport en général. On est proche du lac, on est proche des montagnes, des pistes de ski. On a une plateforme touristique qui est juste extraordinaire. J'ai parlé des vignes, mais on a des magnifiques vins, des magnifiques chasses là avec des vignerons qui se donnent vraiment la peine. Et je profite de compatir avec eux de ce qui vient de se passer avec le gel dans les vignes ces dernières semaines. Tout mon soutien en tout cas à ces vignerons. Mais connaissant le travail qu'ils font, on sait qu'ils vont sortir des millésimes extraordinaires.
Oui, alors effectivement, alors toujours avec modération, mais en règle générale, les vins dans la région, ils sont vraiment pas mauvais, bien au contraire. Et puis tu parlais du sport, qu'est-ce qu'on va avoir comme activité ? Combien y a de clubs ? Qu'est-ce qu'on a comme club ici dans le coin ? De tête, hein, comme ça, hein, c'est pas une question facile.
Non, on a près de, sauf erreur, près de 40 clubs de sport sur le territoire communal. Ça passe bien sûr du football à la gym, à l'uni-hockey, au basket, tennis, la danse. Qu'est-ce qu'on a encore? On en a plein d'autres. Je vais en oublier malheureusement.
Oui, à 40, mais, même mais temps, la
lutte,
longue,
hein. La lutte suisse également, le volleyball. Enfin, il y a un choix incroyable pour notre jeunesse. De pouvoir faire du sport dans notre belle ville.
Et en plus de ça, on n'est pas loin de la forêt finalement ici, si on a envie d'aller se balader. Je veux dire, l'écrin est parfait.
L'écrin est parfait et les coureurs de ce soir vont s'en rendre compte puisqu'ils vont monter dans cette magnifique forêt du Failly pour redescendre, mais aussi pour remonter ensuite après par le château et ensuite redescendre. Ils vont bien se rendre compte que le territoire aiglon, il n'est pas forcément très plat.
En même temps, ils ne sont pas venus pour autre chose parce que c'est dans l'effort que la récompense est plus grande. Je te propose qu'on fasse une petite pause histoire de respirer un bon coup et puis après on revient pour continuer à parler.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Un magnifique brouhaha ici à Aigle. Nous sommes en direct à l'occasion de l'avant-dernière étape du Tour du Chablais. Ça se termine déjà malheureusement. Mais je suis avec Fabrice Cottier. On parlait tout à l'heure de Aigle. La question c'est Aigle. C'est quoi? On a parlé du sport, on a parlé de cet événement qui a attiré autant de monde. Ça pouvait arriver qu'à Aigle, on est d'accord.
On est bien d'accord.
Le record battu. Il y a encore des gens qui s'inscrivent. À la dernière heure, c'était 1850 participantes et participants. Et là, il y a encore des gens qui s'inscrivent. Bon, moi je voulais te demander... Qu'est-ce qui fait la fierté des aiglons et des aiglonnes? Qu'est-ce qui rend fiers les gens d'ici? Parce qu'ils sont fiers d'être aiglons et aiglonnes, là.
Et bien sûr qu'ils sont fiers, mais parce qu'ils ont un cœur gros comme ça. C'est ça qui fait leur fierté. Et puis, c'est des gens sympas, on a un esprit... Même si on a une ville de 11 500 habitants maintenant, on a un esprit très villageois, les gens se connaissent. Et c'est ça qui donne la fierté d'être un aiglon. Parce que on a encore une fois un magnifique territoire avec un magnifique patrimoine avec le château et les vignes, capitale mondiale du chasselas, je le répète aussi.
On peut le dire.
C'est important. En même temps que capitale mondiale du cyclisme.
On peut le dire.
On peut le dire aussi. Mais effectivement, les aiglons, ils ont, comme je disais, ils ont un immense cœur et c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir partager des moments avec eux. Parce qu'il le partage avec nous aussi.
Et c'est vrai qu'il y a cette notion de partage et puis de sympathie et de fête, en fait. Alors peut-être que c'est quelque chose d'assez inhérent à notre région, que ce soit la Riviera, le Pays d'en Haut ou le Chablais. Mais il y a ce truc ici, il y a la braderie, il y a plein d'événements. Les gens, ils sourient, en fait. Il y a vraiment que ça. Comment tu l'expliques? Pas seulement par le paysage ou bien...
Mais il faut croire qu'ils sont bien ici. Si, souris. Ils sont très bien ici. Ils sont très contents de pouvoir vivre dans cette commune, dans le Chablais, parce que c'est vrai que la commune d'Aigle fait partie d'un magnifique Chablais avec diverses et beaucoup de propositions à faire dans ce Chablais. Je rappelle qu'on est plus de 100 000 habitants dans le Chablais. Et en fait, je pense que s'ils se sentent bien, on a tout aussi à proximité, comme je disais tout à l'heure, également les transports publics. On a une gare qui dessert quasi toutes les villes de Suisse, vraiment très bien, avec des cadences de train qui sont maintenant pratiquement toutes les 15 minutes. Et franchement, on peut être que bien ici. Et puis, encore une fois, on a un excellent chasselas.
Alors, toujours avec modération, mais c'est vrai que souvent dans les communes qui sont viticoles, et vinicoles, on a une ambiance comme ça un peu plus festive qu'ailleurs. Alors, moi, je suis montaisan, hein, non, on a l'ambiance festive sans forcément produire du vin, mais il y a toujours ça.
Oui, c'est l'ambiance Carnotse.
Ouais.
Exactement. Donc on peut pas faire autre chose que d'être content d'être dans une ville comme celle-ci quand on a l'esprit Carnotse.
Ah, l'esprit Carnotse. Tu vois, c'est la première fois que j'entends ça comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un truc. Qu'est-ce que tu pourrais dire, un dernier mot, pour mettre en avant cette magnifique commune?
Ben écoutez, je crois que, en tout cas ce soir, ça montre que, alors il n'y a pas que des aiglons qui sont ici forcément. Mais ça montre que cette étape, elle était attendue de tout le monde, parce qu'on l'avait fait la même il y a 2 ans et elle avait été très appréciée, le parcours avait été très apprécié. On a un magnifique comité d'organisation et des bénévoles qui se mettent à genoux pour les coureurs et les participants. Et puis, ça montre que les gens se sentent bien de venir à Aigle et de pouvoir faire cette étape ici pour le Tour du Chablais.
Alors moi, personnellement, je me sens à chaque fois très bien à chaque fois que je viens à Aigle. Merci infiniment, Fabrice Cottier. Je rappelle que tu es président du comité d'organisation de l'étape d'aujourd'hui, en plus d'être municipal au sport et participant total et volontaire à toute la vie aigloise. Merci infiniment et une excellente soirée.
Eh bien, merci beaucoup à toi et puis salutations à tous les auditeurs. Merci.
Radio Chablais. Programme de nuit. Bon.
C'est chaud. Sur le grill.
Nouvelle génération, c'est une conférence qui a lieu ce 5 mai à 18h à Martigny. On en parle avec Yam Delaloy. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Avec plaisir. Alors Yam, il y a tout un parcours à expliquer. Déjà, juste expliquer cette conférence. Nouvelle génération qui vous tient spécialement à cœur. Pourquoi et qu'est-ce qui va se passer à Martigny ce 5 mai ?
Alors ce 5 mai, nous allons accueillir 7 jeunes de la région qui ont fait des parcours atypiques, qui ont fait des levées de fonds pour des associations, qui ont fait des aventures dans la nature, qui ont apporté quelque chose de positif à la société, qui vont pouvoir nous parler un petit peu de tout ça ensemble.
Le but, c'est qu'ils parlent en fait de leur expérience et qu'ils transmettent un petit peu leur jeune expérience et jeune savoir pour montrer qu'il y a des jeunes qui se bougent.
Exactement. C'est vraiment de pouvoir apporter au maximum de l'espoir un petit peu dans cette société qu'on a besoin actuellement.
Alors justement, cette conférence, elle sera au profit d'une fondation, c'est la fondation Moi pour Toi, dont vous faites partie. Expliquez-nous les buts et raisons de cette fondation, la fondation Moi pour Toi.
Alors la Fondation Moi pour Toi aide les enfants défavorisés de la région de Pereira en Colombie. Étant adopté moi-même en Colombie, ça m'est paru logique et normal d'apporter mon aide aux enfants qui n'ont pas eu la même chance que moi.
Alors vous avez participé à une récolte de fonds, si je ne me trompe pas, l'année passée. Vous avez fait une marche de 112 km sur 24 heures, vous avez récolté 10 000 francs. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin? Vous l'avez dit, vous êtes vous-même colombien d'origine, vous avez été adopté, donc vous vous sentez proche de cette fondation. Mais pourquoi ensuite on passe l'étape tout à coup de vouloir récolter de l'argent?
C'est un projet où j'ai voulu allier hommage avec le décès de mon ami à travers cette marche de 24 heures et 112 kilomètres, et en même temps apporter du soutien. Je me suis dit on allait faire un complément, de pouvoir faire un hommage digne de ce nom et en même temps pouvoir aider les gens.
Suite à la disparition d'un ami, vous vouliez participer, faire quelque chose, être actif justement, puis récolter de l'argent dans ce parallèle. Ce projet s'appelait UPEC. Ça voulait dire quoi, UPEC?
UPEC voulait dire un périple de persévérance et de courage, donc une marche de 24 heures et 212 kilomètres, avec énormément de préparation, mais qui a pu rendre beaucoup de personnes heureux.
Alors, quand vous récoltez ces 10 000 francs, quand vous êtes en train de marcher, comment ça se passe dans votre tête à ce moment-là, l'année passée?
Beaucoup de stress, beaucoup de préparation, évidemment. On ne se rend pas vraiment compte de la marche qui arrive jusqu'à quelques jours avant. Un peu comme ce qui est en train de se passer actuellement aussi. On commence à sentir le stress un petit peu de la soirée qui va arriver. Mais on travaille et puis on essaie de garder la tête dans le guidon jusqu'au jour J.
Alors la conférence, on va en reparler dans quelques instants, mais entre justement faire une conférence, préparer une conférence et préparer 112 bornes de marche pendant 24 heures, physiquement c'est un investissement différent, mentalement aussi quand même.
Effectivement, c'est complètement différent, c'est un investissement qui est tout nouveau aussi, c'est un des nouveaux enjeux et puis un nouveau défi pour une nouvelle année.
Alors cette conférence Nouvelle Génération, expliquez-nous un petit peu qui va y avoir et ce que vous allez présenter.
Alors on aura la chance d'accueillir Marine et Diego, qui font partie de l'équipe Valais Valis Racing Team, qui ont construit du coup une voiture de course totalement électrique et participé à la compétition d'ingénierie la plus grande au monde.
Alors justement, pour les jeunes justement et qui créent ce genre de véhicule, c'est une vraie compétition, hein, on le rappelle. Et puis ensuite, alors d'autres intervenants.
Exactement, on va avoir du coup Loïc Kaplan, aventurier un peu à la Mike Horn, qui a pu aller dans des biomes comme le désert, l'Amazonie et aussi l'arc polaire. On aura Maxence Roduit aussi, un ami qui a perdu l'usage de ses jambes suite à un accident de parapente et qui aujourd'hui marche de nouveau. Et puis on accueillera aussi évidemment Guillaume et Maxence, Guillaume Marais et Maxence Caron, qui auront traversé le lac Léman à la nage aussi pour une association il y a quelques mois auparavant.
Je rappelle que des jeunes de moins de 30 ans, voire moins de 25 ans, et qui s'investissent dans ces différents projets suivant les âges.
Exactement, approximativement dans ces âges-là.
On rappelle donc Nouvelle Génération en faveur de la Fondation Moi pour Toi, conférence Nouvelle Génération ce 5 mai à 18h à Martigny, à la salle communale, c'est bien ça?
Exactement, salle communale de Martigny à partir de 18h.
Moipourtoi.org pour toutes les infos. On se retrouve dans quelques instants, ok?
Merci, à tout à l'heure.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Sur le grill.
Avec Yam Delaloy, un jeune qui se bouge pour la Fondation Moi pour Toi. Il organise avec toute une équipe la conférence Nouvelle Génération ce 5 mai à 18h à la salle communale de Martigny. L'objectif, récolter des fonds justement pour la Fondation Moi pour Toi avec différents intervenants. Rappelle-nous juste un peu les intervenants quand même, hein, Yam, parce qu'il y a, quand même des chouettes jeunes qui sont des jolis exemples.
Alors, nous retrouverons Loïc Kaplan, un explorateur autodidacte qui a bravé la jungle, le désert et le grand froid. Nous aurons Maxence Roduit, un passionné de montagne qui a surmonté suite à un grave accident.
De parapente, hein.
De parapente, exactement, qui a failli lui coûter la vie.
Et puis qui fait maintenant des 4000.
Exactement.
Marine Rébété et puis Diego Cacciatore.
Deux étudiants de l'HES qui conçoivent une voiture électrique pour la compétition Formula Student, la plus grande compétition d'ingénieurs au monde dans le domaine.
Et puis toi, justement, entrepreneur et sportif qui a marché 112 km l'année passée en 24 heures pour récolter 10 000 francs. Et Maxence Caron et Guillaume Marais.
Oui, fondateurs de l'association Prime Athletics et qui ont effectué la traversée du lac Léman à la nage.
Qu'est-ce que vous allez raconter dans cette soirée? Pourquoi vous organisez cette conférence? Alors, pour soutenir, oui, mais quel message vous voulez passer?
Le message qu'on aimerait passer, c'est de démontrer que dans cette société qui... par moment, manque d'espoir, qu'il y a toujours une lueur.
Et puis que des jeunes peuvent se bouger et faire des choses, en fait.
Exactement, et que la nouvelle génération, comme le titre de notre équipe, est là pour pouvoir...
peut aussi se bouger.
Exactement.
Alors, il y aura aussi des démonstrations avec Dakota et Nadia pour des démonstrations de danse, les célèbres Dakota et Nadia, ainsi que Kevin et Natalia, ça c'est pour des démonstrations de pole dance, c'est bien ça?
Exactement.
Une soirée qui sera donc animée. Et puis alors, si on veut aider, justement, comment on fait? On vient ce soir-là et ensuite?
Vous venez ce soir-là, le premier verre est offert et par la suite, toutes vos consommations seront reversées directement à la Fondation et des codes QR aussi seront à disposition pour pouvoir participer durant toute la soirée.
Donc, des conférences pour découvrir l'univers incroyable de ces jeunes qui vont présenter justement leurs différents défis, leurs différentes activités. Et puis, l'occasion, en plus d'un joli spectacle, de soutenir la Fondation Moi. Pourtant, on rappelle les activités de la Fondation?
Les activités de la Fondation soutiennent les enfants défavorisés de la région de Pereira en Colombie à travers l'éducation, les soins et puis amener la personne à pousser vers les études.
Alors, comme le vieux que je suis, moi j'ai parlé du site internet moipourtoi.org, mais bien sûr, on suit par les réseaux sociaux.
Exactement, vous pouvez directement nous suivre sur yam.coaching. Vous aurez toutes les informations nécessaires, des petites vidéos, des petits reels sur de présentation de chaque personne.
Et puis alors toi, yam.coaching, c'est ta page, parce qu'il y a un prochain défi que tu proposeras, si tout va bien, au mois de juin. Fais-nous rêver.
Exactement.
Enfin, alors, rêver, je sais pas.
Donc sur cette nouvelle année, nouveau projet, nouveau défi évidemment. Donc on va essayer de faire 10 000 pompes en remerciement aux 10 000 francs qu'on a pu récolter sur une période d'à peu près de 15 heures.
10 000 pompes en 15 heures, ça ce sera toi qui vas essayer de le faire?
Exactement.
Tout seul?
Tout seul.
Comme un grand?
Comme un grand, exactement.
Et là, il y aura aussi l'occasion de soutenir la Fondation, peut-être à nouveau moyen de dons et autres?
À nouveau, il y aura moyen de pouvoir le faire, mais on n'a pas encore déterminé, donc restez connectés.
Un franc par pompe, ça peut déjà être pas mal. Merci beaucoup, Yam Delaloy, des jeunes qui se bougent, nouvelle génération en faveur de la Fondation Moi pour Toi, conférence Nouvelle Génération, c'est ce 5 mai à 18h à la salle communale de Martigny, avec les prestations de Dakota et Nadia, ainsi que Kevin et Natalia pour du pole dance. Tout ça, c'est sur moipourtoi.org ou yam.coaching, on l'a dit.
Exactement.
Sur pour les réseaux sociaux. Et puis, l'occasion d'aller soutenir tout ça. Merci beaucoup, Yam. Bravo.
Merci beaucoup. En tout cas,
bientôt. Ciao, ciao.
À très bientôt. Au revoir.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
le nombril du monde. C'est ouvert, on est du côté du télécabine, on est à Dorena, ou Dorène pour les intimes. Ah là on entend un petit peu plus le vent déjà, hein. Là on sait qu'on est au pays des éoliennes. Ma très chère guide Yasmine, on vient de rentrer dans le petit télécabine de Dorena,
qui monte à Alès et Champé, donc c'est DAC Dorena Alès Champé.
Bon, ça c'est un véhicule essentiel pour la commune, parce que jusqu'en 86, il n'y avait pas de route qui montait.
Non, effectivement, quand j'étais enfant et même avant, il n'y avait pas de route. Même il n'y avait qu'un chemin, le téléphérique qui a été inauguré en 58. Il a été commencé à construire 2 ans avant. Et sinon, les gens, c'était à pied, quoi. Le chemin pédestre pour aller travailler et tout.
Ça faisait des bons mollets, parce que c'est assez raide, hein.
Ouais, c'est super raide. Donc, effectivement, la montagne se dépeuplait. Et puis, le conseil communal a dit qu'il faut faire quelque chose. Et la route s'est pas faite. Et ils sont partis sur l'idée d'un téléphérique.
Et puis, je crois savoir que ce téléphérique a été un petit peu l'outil, pas de la discorde, mais d'une grève.
Alors, il y a plein de petites anecdotes sur ce téléphérique. Effectivement, en 58, ils font l'inauguration à Pâques, c'est extraordinaire et tout. Et quelques mois après, le conseil communal décide de fermer l'école à Alès. Il y avait une petite école à Alès pour les gens de la montagne, environ 14 élèves qui restaient encore. Et ils se disent, maintenant le téléphérique est fait, on rapatrie ces élèves à Dorena, à l'école de Dorena, et on ferme l'école. Après la joie d'avoir un lien qui relie rapidement la plaine, les gens de la montagne se disent, mon Dieu, la fin de notre école et tout. Donc, à la rentrée scolaire en septembre ou octobre 58, premier jour, pas d'enfants de Champé d'Alès, deuxième jour, pas d'enfants de Champé d'Alès, et ainsi de suite. Grève de la montagne, les familles de la montagne ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école de Dorena.
Du changement, oui, mais pas trop.
Voilà un petit peu ça. Donc la grève, elle a duré quand même bien quelques mois avant qu'ils trouvent...
Quelques mois ?
Ouais, quelques mois en tout cas, quelques bons mois avant qu'ils trouvent une façon de faire. Et puis petit à petit, les enfants, ils ont rejoint la plaine, trouvé d'autres camarades et puis et l'école est... Tout s'est bien passé.
Et puis en plus, c'est pas comme si les gens d'en haut qui cassaient le caillou, qui cassaient l'ardoise, ils ont pas la tête dure, on est d'accord?
Alors, il y a la tête dure des deux côtés du câble.
Hein. Et en parlant de ce câble, toi, il t'est arrivé une petite anecdote aussi assez particulière une fois. Oh mon Dieu, tu me l'as raconté tout à l'heure en micro, j'étais mort de rire. S'il te plaît, partage-la.
Effectivement, donc j'ai commencé l'école début des années 80. C'est pas encore la cabine qu'on voit ici. C'était une cabine plus petite avec des bords, des pans qui a été plus haut, des plus petites fenêtres. Et moi, j'étais toute petite. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'enfants à l'époque. J'étais seule enfant de mon âge là-haut. Le téléphérique n'était pas automatisé. Donc, quand on prenait le téléphérique, il y avait un contrôleur qui partait de Champé, qui descendait à Alès. Là, il s'arrêtait à la station intermédiaire d'Alès. Il fermait la porte avec une petite chaîne. Lui, il l'attendait. Il prenait la cabine qui remontait. Et puis moi, je continuais à descendre. Quand j'arrive ici à Dorena, le contrôleur de l'époque, je pense plein de gens s'en souviennent de Lini Pacola. Lui, il se déplace pas, il voit arriver la cabine, il regarde de loin par les fenêtres, personne, et il s'en va. Donc moi, je reste à 5 ans, toute seule, enfermée dans le téléphérique. J'étais tellement petite que je sortais pas aux fenêtres, donc quand j'entendais du bruit, je sautais, mais arrête de rire, je sautais, je tapais contre les fenêtres, et je criais. J'ai attendu un petit moment, donc c'était le matin, j'ai attendu un petit moment, et à l'époque, il y avait un kiosque au fond du téléphérique, donc le monsieur du kiosque m'a entendu, il est arrivé, il a ouvert la chaîne, il m'a libéré, mais ça a été quand même un cauchemar et je savais pas qu'ils avaient fait grève, mais pendant quelques semaines je voulais plus aller à l'école.
Des très beaux souvenirs à chaque fois. C'est le nombril du monde et vous le retrouvez en podcast sur radiochablais.ch.
Radio Chablais,
le nombril du monde. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais.
Alors aujourd'hui, c'est le 1er mai, le premier jour où on peut faire ce qu'il nous plaît, ou presque. Et bien sûr, le 1er mai, c'est aussi le jour du muguet, mais aussi la fête du travail. Ma question, c'est pourquoi on offre du muguet le jour de la fête du travail? Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux choses? Alors moi, je pensais que ça n'avait rien à voir avec l'histoire sanglante du 1er mai, c'est-à-dire la lutte des classes, les ouvriers qui revendiquent de meilleures conditions de travail et tout ça, tout ça. Je pensais même que c'était à cause du roi Charles IX qui, en 1561 avait décidé de distribuer du muguet à toutes les dames de sa cour et que cette tradition avait perduré dans le temps. Eh bien, il se trouve qu'en fait, ça, c'est une parmi plusieurs théories. Il y en a qui disent que le muguet, en fait, c'est directement lié à la fête du travail. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, en très 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 bref, le 1er mai, ça correspond donc au 1er mai 1886, quand la classe ouvrière se mobilise dans les rues des États-Unis pour revendiquer des journées de travail de 8 heures au lieu de 12. Il y a plus de 300 000 ouvriers qui se mobilisent de manière pacifique dans tout le pays. Et ils remettent ça quelques jours plus tard, le 3 mai. Mais ça a dégénéré, ça finit en bain de sang. Il y a des morts du côté des ouvriers et aussi du côté de la police avec une bombe qui explose le 4 mai. Enfin bref, c'est la catastrophe. Et puis la même chose se passe à Paris 2 ans plus tard. Et donc avec tout ça, c'est comme ça que le 1er mai devient un jour chômé et qui est, ce jour est associé à la lutte des classes. Alors, c'est quoi le rapport avec le muguet ? Eh ben, en fait, tout simplement, c'est parce que c'est la fleur qui est arborée à la fin du 19e siècle quand ils faisaient le défilé du 1er mai. C'était en souvenir des ouvriers qui avaient donné leur vie pour cette cause. Le muguet, en fait, il représentait, c'était le symbole du renouveau. Mais le muguet, ça correspond aussi à plein d'autres choses différentes, comme par exemple le 1er mai dans l'Antiquité, c'était le jour où les navigateurs reprenaient la mer et donc c'était censé être une fleur qui leur porte chance. Et pour les Celtes, par exemple, le 1er mai, ça représentait le premier jour d'été, donc le muguet était offert en offrande à la déesse Flora pour passer un bel été. Donc il y a plusieurs significations comme ça. Et le muguet n'est pas forcément associé à la fête du travail. Donc quoi qu'il en soit, si vous êtes en congé aujourd'hui, profitez pleinement, allez acheter du muguet, faites-vous plaisir. Et si vous êtes au travail, eh bien force à vous, je vous envoie plein de courage et plein de muguet en Bluetooth. Et justement pour vous donner du courage, le premier ou la première à me dire pourquoi on offre du muguet le 1er mai gagnera 2 entrées pour le plus grand dance floor du Valais. Ce sera ce samedi 4 mai à la patinoire de Montet. Donc voilà, si vous m'envoyez sur le WhatsApp de la radio au 079 364 31 06 une des raisons que je vous ai citées dans cette chronique, vous repartez avec vos 2 places. Voilà.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Radio Chablais, programme de nuit.
Les bons plans
sur Radio Chablais.
Ah, voilà.
Alors ce soir, c'est la 5e étape du Tour du Chablais. Ça se déroulera à Aigle à partir de 18h. Et comme en 2022, l'étape aiglonne de cette année va vous en mettre plein les yeux, entre ville, forêt, vignoble, château et cloître, route et chemin. Enfin bref, du grand spectacle qui est attendu aujourd'hui à Aigle et sur les rives de la Grande Eau. Et pour en parler un peu plus en détail, on va écouter Yvan Vouillameau, président du Tour du Chablais, au micro de Caroline.
Il est là, fidèle au poste. Yvan Vouillameau, salut Yvan.
Salut.
Le Tour du Chablais qui nous accompagne tous ces derniers mercredis. On en est à la combientième étape? C'est déjà la 5e étape là.
C'est déjà la 5e, en effet.
Et on est de retour en plaine, on est à Aigle.
On est au plein, mais à Aigle, c'est pas que plein.
C'est juste, il y a des coteaux, il y a des vignobles, voilà.
Et c'est ça. Donc c'est une nouvelle association. Alors une partie existait déjà. Donc c'est le club du New Hockey des Eagles, la société de gymnastique Aigle Alliance et le club de basket d'Aigle qui sont associés. 3 sociétés qui se mettent ensemble pour organiser cette étape. Je profite de passer un appel. Si d'autres sociétés sont intéressées à organiser, mais qu'elles se sentent peut-être pas assez grandes, faites la même chose comme à Aigle. Associez-vous à d'autres sociétés sportives et puis faites-le ensemble. C'est beaucoup plus facile pour trouver les bénévoles pour travailler.
Ah, ça c'est sûr. Puis en plus, c'est gratifiant parce qu'on vit une belle expérience.
Exactement. Il y a des bons échanges entre ces sociétés. Alors, je les connais bien vu que j'habite Aigle. Donc, c'est des sociétés que je connais par cœur. Et ça donne vraiment des synergies qui sont sympathiques. Et ça permet aussi de se lancer et d'organiser pourquoi pas la dernière étape qui, en termes d'organisation, est un peu plus dure.
Ok, c'est bon à savoir. Alors là, semblerait-il, on va faire de la ville, de la forêt, du vignoble, un peu de tout, quoi.
On a un super parcours qui a été concocté il y a 2 ans et on fait vraiment un mélange. On part depuis les écoles, ensuite on grimpe au-dessus du château avec une vue magnifique sur la plaine. Vraiment un super parcours. 8 km 300, ça pique un tout petit peu, 200 mètres de dénivelé, mais vraiment un très beau parcours qui vaut la peine.
En fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est facile à faire le Tour du Chablais.
Alors, c'est un peu le but du Tour du Chablais. C'est des courses quand même avec un petit peu de challenge, c'est clair. Et puis, au fur et à mesure des étapes, ben, voilà, on en a fait 2 à plat. Maintenant, on vient d'en faire 3
qui grimpent un petit peu.
Ouais. Mais c'est normal. La forme s'améliore chaque semaine.
Et on s'adresse, comme d'habitude, autant aux mini qu'aux écoliers, aux adultes. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour ces différentes catégories?
Alors, pour les mini, on va vraiment rester à plat. Hein. Ils vont tourner dans le centre d'Aigle. Les écoliers, un petit peu plus de chemin avec une petite montée côté du château, donc une 50aine de mètres de dénivelé. Mais là aussi, ils ont la forme maintenant. Et puis, ben, pour les adultes, comme on a dit, donc départ à 19h, 18h les mini et 18h20 les écoliers.
Voilà, bah joli tour, belle balade en perspective avec une vue juste imprenable. À la semaine prochaine, j'ai envie de te dire, Yvan, pour la dernière étape.
À la semaine prochaine.
Les bons plans.
Ouf.
Bonne nuit sur Radio Chablais. Suis.
Voici les titres du journal.
Un important incendie s'est déclaré cette nuit à l'entrée de Viona. Le bâtiment atteint a été totalement détruit par les flammes qui ne sont pas tout à fait éteintes. On fait le point dans ce journal. Les populations de Saint-Maurice, Vérossa et Massonger devront s'exprimer sur un projet de fusion à 3 en juin. Lors d'un vote consultatif, une séance d'information s'est déroulée hier soir à Massonger. À Monté, un club de lecture a rejoint la Casanova. Dès aujourd'hui, il sera possible d'échanger autour des livres dans le nouveau pôle culturel de la ville. Et en sport, en hockey, pas de premier titre en National League pour le LHC. Les Lausannois se sont inclinés 2-0 hier soir à Zurich en finale des playoffs.
Pour la météo, un temps seulement en partie ensoleillé pour ce mercredi. Pour demain, le temps sera couvert avec de fréquentes précipitations. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Guillaume Abbey. Bonjour Guillaume.
Bonjour Axel, bonjour tout le monde. Un mariage à 3 pour certaines communes du Chablais. Les populations de Massonger, Vérossa et Saint-Maurice devront s'exprimer sur la poursuite d'un projet de fusion à 3. Un vote consultatif est organisé le 9 juin et une séance d'information était organisée hier soir à Massonger. Environ 350 personnes issues des 3 communes y ont pris part. Après avoir imaginé et abandonné un mariage à 2 entre Massonger et Vérossa, les 2 communes ont entamé un processus de fusion au sein du même district avec Saint-Maurice. Mais du côté de Massonger, surtout, on craint que la population préférerait un mariage avec Monté. Ce vote consultatif a été ainsi mis sur pied afin d'être en mesure de changer encore le projet en cas de non dans l'une des bourgades. Sylviane Coco, présidente de Massonger, au micro de Valérie Favre.
Si c'est non, c'est clair que ce processus à 3 s'arrêterait. Mais ça ne veut pas dire qu'un processus de fusion n'aurait pas lieu. Ça veut dire qu'on va se re-questionner, mais ça sera la responsabilité des prochains élus, pour voir si c'est la taille qui était trop petite, si c'est les partenaires qui n'étaient pas les bons, si on ne s'est pas tourné du bon côté. Donc tout reste ouvert et c'est ce qu'on souhaitait vraiment, c'est que ce vote, il aboutisse pas à une fermeture ou à un mur, mais que ça laisse beaucoup de possibilités pour les prochains, mais quand même une consultation pour avoir un sondage un peu représentatif de la population, un peu plus qu'un sondage finalement.
Et en cas de oui, une fusion serait imaginée pour l'horizon 2030. Et en restant les fusions, Vétot, Chillon et Montreux donnent leur feu vert au projet de fusion. Hier soir, les 2 conseils communaux se sont réunis simultanément pour se prononcer sur la convention de fusion des 2 communes. Malgré l'opposition de la municipalité de Vétot, le conseil communal l'a approuvé avec 25 voix, 8 contre et 1 abstention. De son côté, le législatif de Montreux, en accord avec la municipalité, a massivement soutenu la fusion avec 99 voix. Une contre et une abstention. La convention de fusion ainsi validée sera soumise à un vote populaire en septembre prochain.
Blonay-Saint-Léger a soumis un préavis annonçant son retrait de l'association Sécurité Riviera.
En séance hier soir à Blonay, le syndicat Alain Beauvais a annoncé que la municipalité ne maintenait pas son préavis. Il ne s'agit pas d'une non-décision, comme le souligne le syndic de Blonay-Saint-Léger, qui rappelle que la commission ad hoc avait par ailleurs soutenu les conclusions de la municipalité. Pour les élus, un changement était nécessaire au vu de la situation de la commune. Alain Beauvais, syndic de Blonay-Saint-Léger.
Nous avons été sanctionnés simplement parce que nous avons fusionné et l'addition de 5500 et 6500 habitants font que nous sommes passés d'une autre catégorie et nous sommes passés entre le 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022. On est passé des critères de coefficient 5 au coefficient 6.
Un coefficient comparable à celui de Montreux ou de Vevey à la suite de la rencontre des municipalités de la Riviera. Une proposition estimée satisfaisante a été faite pour régler les problèmes liés à la fusion. Alain Beauvais, syndic de Blonay-Saint-Léger, est confiant en l'intercommunalité.
Nous partons du principe avec les présentations qui ont été faites au conseil intercommunal de la SR, avec un calendrier bien précis. Nous partons du principe que le génie intercommunal va briller et va nous permettre en effet de trouver un consensus intéressant.
Un sujet de Martine Vustinaire. Un important incendie s'est déclaré à l'entrée de Viona dans la nuit de mardi à mercredi. Maîtrisé mais pas tout à fait éteint, le feu a englouti l'intégralité d'une halle en bois où se trouve entre autres un dépôt d'une entreprise de paysagisme et un restaurant. Le tronçon de la route cantonale qui borde le bâtiment entre Viona et Murat reste fermé à toute circulation pour une durée indéterminée. L'incident a demandé le déploiement d'une soixantaine de personnes encore sur place. En raison de la stagnation des fumées à basse altitude, les services de sécurité conseillent aux personnes sensibles de fermer les portes et fenêtres. Des opérations sont toujours en cours dans les décombres afin de rechercher d'éventuelles victimes, indique la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Le ministère public, en collaboration avec la police cantonale, a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances du sinistre.
Le Valais a dévoilé sa stratégie pour la culture.
À Sierre, à l'Hacienda, hier matin, les autorités cantonales ont annoncé une vision à trois axes. La conservation, l'encouragement et la coopération. D'ici à 2030, ces axes compteront 63 nouvelles mesures qui doivent permettre d'améliorer, mais aussi de pérenniser le secteur. Les précisions du chef du service de la culture, le Montezan Alain Dubois.
Le service de la culture travaille dans trois directions. Le patrimoine culturel, à travers ses institutions que sont les archives d'État, la médiathèque Valais, les musées cantonaux et l'office cantonal d'archéologie. Un second axe porte sur l'encouragement des activités culturelles. C'est vraiment l'encouragement à la création culturelle dans ce canton. Les soutiens sont portés par la section de l'encouragement des activités culturelles. Et pour moi, il y a un nouvel axe qui me paraît vraiment important, c'est l'axe de la coopération. Parce que la culture, elle doit pour moi innerver complètement les autres domaines de la société. On l'a vu avec le dispositif culture et tourisme, et j'aimerais pouvoir travailler avec mes équipes sur des dispositifs autour de culture et économie, culture et cohésion, intégration sociale, culture et santé ou culture et nature.
Une stratégie d'ampleur qui succède à celle datant de 2018. Arrivé à la tête du service de la culture en 2022, le Montezan Alain Dubois vivait une première hier matin. Sa réaction.
C'est un travail collectif que j'ai pu conduire avec le conseil de direction du service de la culture. Ce qui était intéressant, c'est que ça a permis en même temps la cohésion de l'équipe, parce que sur les 7 membres du conseil de direction, nous étions 5 nouvelles personnes à nos fonctions. Mais alors, il ne s'agit pas d'un document qui a été élaboré sur un bout de table à Sion. Au contraire, on tient compte aussi de l'ensemble de l'écosystème. Il est pour moi aussi important de faire une politique publique de la culture pour les actrices et les acteurs culturels. Et je vais très régulièrement sur le terrain pour voir comment bat le pouls de la culture. J'ai l'occasion d'assister à peu près à 200-250 manifestations chaque année, et c'est là vraiment qu'on peut affiner les différentes mesures qu'on imagine, même s'il y a aussi une manière différente de pratiquer la culture qu'on habite à Gletsch, à Sion ou à Saint-Gingolph.
Cette présentation était aussi l'occasion de tirer le bilan de la période liée à la pandémie. Entre 2021 et 2023, l'État du Valais a soutenu 54 entreprises culturelles valaisannes pour un montant de 7 millions de francs, un sujet signé Ludovic Turin. Franz Ruppen reprend la présidence, ou prend plutôt la présidence du Conseil d'État valaisan. Il succède dès aujourd'hui à Christophe Darbelay. Par ailleurs, Mathias Reynard devient le nouveau vice-président du Collège gouvernemental valaisan.
Un club de lecture intègre la Casanova, le pôle de culture qui vient d'ouvrir ses portes à Monthey.
Et dès aujourd'hui, les passionnés de lecture ou les curieux se rencontreront tous les 2 mois. Le but, présenter une œuvre et donner envie aux autres participants de la découvrir. Déjà existant depuis quelques mois, le club de lecture a déjà ses habitués, mais chacun est libre de le rejoindre ponctuellement. Raphaël Viodens, responsable de la Casanova.
On avait juste envie de créer un espace, un moment, de permettre de se réunir autour d'amateurs de bouquins. Donc il n'y a pas de prérequis pour faire partie de ce club. On peut juste avoir envie de découvrir des nouveaux bouquins. On aime juste lire et on a envie de partager sa passion avec d'autres. C'est vraiment quelque chose qui se veut sans chichi. Pas besoin d'être critique littéraire. On vient avec, sous le bras, les bouquins qu'on a lus ces dernières semaines, ou avec rien parce qu'on ne sait pas quoi lire et puis on a justement envie de trouver des idées de nouveaux romans et de nouvelles sorties qui nous inspiraient. Et puis on partage un moment, 1 heure, 2 heures, enfin c'est vraiment en fonction du nombre de personnes qui sont présentes, avec un verre à la main et puis l'envie de juste d'écouter les unes et les autres parler de ce qu'elles ont lu, ce qu'elles ont aimé ou pas aimé.
Le club de lecture se réunit désormais à la Casanova tous les 2 mois, le mercredi en début de soirée, un sujet proposé par Martine Vustinaire. Plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui à Zurich pour la fête du travail sous le mot d'ordre « Le capitalisme rend malade ». Le cortège s'est déroulé de manière pacifique. La police était présente en force. Dans l'après-midi, de nombreuses organisations radicales de gauche ont appelé à une manifestation non autorisée. Un rassemblement qui se termine généralement par des incidents et des dégâts matériels. En tennis, gracias a Rafa, Rafael Nadal, qui tente un dernier retour au premier plan à bientôt 38 ans, malgré son corps cabossé, a fait ses adieux à Madrid hier soir. Il a connu l'élimination en huitième de finale du Masters 1000 organisé dans la capitale espagnole face au jeune tchèque Jiří Lehecha, 31e joueur mondial. Il a perdu 7-5, 6-4 en un peu plus de 2 heures.
Le Lausanne Hockey Club doit se contenter du titre de vice-champion.
Et les Lions ont perdu la finalissima 2-0 à Zurich hier soir. Un match dans lequel ils n'ont pas de regrets à avoir puisque Zurich a dominé de A à Z. À leur retour à Malais, les joueurs lausannois ont été accueillis par plusieurs centaines de fans entre feux d'artifice et chants. Les 2 heures de route n'auront pas suffi à atténuer la déception. Mais est-ce que de voir tous ces sourires permettra aux joueurs de passer une meilleure nuit ? Igor Jelovac, défenseur villardou du LHC.
Oui, c'est sûr. Ouais, comme j'ai dit avant, c'est sûr que c'est incroyable le support qu'on a. Après, c'est quand même, on reste des sportifs. On veut gagner. C'est pas souvent qu'on se retrouve dans cette situation-là. Moi, j'en rigole un peu dans le vestiaire, mais j'ai plus de finales de play-out que de finales de play-off. Donc, pour une fois que j'y vais, j'aurais plus que rêvé de la gagner. En plus, avec mon club de cœur, le club de ma région, le club que j'ai soutenu depuis. Depuis tout petit, je vois des maillots de Martin Saint-Louis. J'en ai, je pense, 2 à la maison. Ça aurait été vraiment pour moi le plus que le point culminant de ma carrière de gagner ça ici à la maison. Mais c'est vrai que le sourire des gens, il est dans